Voilà, ceci m'amène donc à vous parler de Bernard Foin. Je suis très heureux de te revoir ici parce que on s'est, la dernière fois, ça devait être il y a très longtemps, on était dans les années, alors on ne va pas jouer les anciens combattants, mais ça devait être dans les années 80.
Au Chili ensemble.
Au Chili ensemble.
Au milieu des années 80.
Alors, pour le faire court, je dis qu'on a vraiment quelque chose en commun. La Lune nous concerne, nous intéresse tous les deux parce que nous sommes astrophysicien, sauf que moi ça me dérange, dès que lui il s'y intéresse particulièrement tous les jours. Voilà. Moi, ça me dérange parce que, évidemment, quand on fait des observations au télescope et qu'on cherche à observer des astres lointains, la lumière de la Lune nous gêne. Donc on choisissait plutôt des nuits sans Lune, alors que maintenant tu t'intéresses particulièrement à l'astre de la nuit. Très très bien, et je trouve que c'est formidable. Je suis très heureux que tu viennes en parler. Mais je me souviens que dans les années 80, on s'interrogeait tous sur l'avenir de l'astronomie française et on s'interrogeait sur l'ESO, parce qu'on s'était retrouvé à l'ESO. On s'est dit, mais quand même, les Français, nos collègues n'ont pas l'air de prendre au sérieux l'ESO. L'ESO, c'est l'Observatoire européen de l'hémisphère sud, qui est au Chili. Et c'est dommage, parce qu'on est toujours plus fort quand on est ensemble que quand on est tout seul. Et en France, on avait à l'époque un petit télescope d'1,90 m, 1,93 m, et un télescope de 2 m au pic du Midi. Avec ça, l'expérience montre qu'on n'aurait pas été très loin. Et l'ESO était en train de concevoir le fameux VLT, le Very Large Telescope, 4 télescopes de 8,20 m. Et on s'était dit, il faut absolument qu'on se serve de la SF2A, vous savez, c'est la Société française des spécialistes en astronomie, ça a changé de nom maintenant d'ailleurs, c'est à peu près ça, pour animer un petit peu, pour discuter, avoir des forums et de discussions. Et on avait organisé tous les deux, je crois qu'on était tous les deux à faire ça, à peu près, oui. On avait organisé donc un forum ici à l'IAP, on avait fait venir des gens qui voulaient bien, les astronomes qui voulaient bien en discuter sur l'avenir de ce télescope. Après, ça a été très très vite, ça nous a complètement échappé. Tout le monde s'est intéressé au VLT. Il y a eu un autre colloque, je crois, que tu as organisé là à Orsay.
À Orsay, oui, sur l'Horizon 2000 pour l'exploration de l'espace.
Et voilà. Et entre-temps, donc, on s'est un peu... chacun, on a suivi notre chemin. Et le tien, il est très clair. J'ai repris là, sur Wikipédia. Il y a des choses très bien. Vous verrez tous les détails. Donc, tu as travaillé 3 ans, effectivement, au Chili, à l'ESO. Hein, et très, très vite, eh bien, tu t'es intéressé... Enfin, tu as été dans le bain du spatial. C'est en fait... c'est un petit peu au-dessus de l'atmosphère. C'est une bonne chose. Je crois que c'est la meilleure manière d'observer l'espace quand on peut le faire. Eh bien, tu as été... Alors, tu as été directeur... Non, c'est pas très clair là-dessus. Directeur du Centre de Recherche et de Technologie... Non. Directeur du Groupe International d'Exploration Lunaire au Centre de Recherche et de Technologie, ESTEC, de l'ESA. Voilà, ça, c'est ta fonction actuelle. Et tu as participé à une mission très importante dont tu vas parler, qui est SMART 1. Donc, puisque tu vas en parler, je ne vais pas détailler. Tu ne parleras pas de Mars Express. Vous avez tous entendu parler de Mars Express, qui a été quand même aussi une belle exploration, une belle mission de l'ESA. Et puis, bien sûr, bon, après, il faudrait que je dise que tu as écrit 400 articles, 160 en tant qu'article avec référé, et que tu écris des livres, et que tu es évidemment toujours volontaire pour parler... confronter tes résultats et partager tes résultats avec le public, ce que tu fais ce soir, et ce dont je te remercie.
Voilà. Merci Daniel. Bon, c'est un grand plaisir de venir à l'IAP, à cet amphithéâtre. En fait, j'ai même des souvenirs d'enfance presque ici, puisque c'est le premier endroit où j'ai présenté mes résultats de maîtrise d'astrophysique quand j'étudiais à la réunion des spécialistes en astronomie. Donc, j'étais tout tremblant par l'un de mes premiers résultats où j'utilisais une expérience de sonde fusée que nous avions lancée depuis le Nouveau-Mexique, White Sands, et j'avais donc les premiers résultats à présenter, etc. Et aussi, donc, j'avais de bons collègues à l'IAP, et aussi, c'est un plaisir de retrouver Daniel. Et merci à Jean aussi, derrière la caméra, et aussi de tous ceux qui ont organisé donc, cette série de conférences publiques. Alors, je vous remercie d'être venu et je vais vous demander d'attacher vos ceintures parce que nous allons faire un petit voyage vers la Lune, vers le village lunaire. Et donc, le titre de ma conférence est « La Lune, science, exploration et utilisation ». Smartin, donc c'est cette première mission que nous avons lancée par la Lune, c'est en partie mon bébé avec toute une équipe. On a procréé en collectif, hein, mais je suis donc le directeur scientifique de cette mission. Je vous en parlerai. La première mission lunaire du millénaire. Et cette mission, c'est la Lune. À la Lune, c'est l'Europe qui l'a construite. Et ensuite, je parlerai aussi d'autres projets, les perspectives de missions qui vont vers la Lune, robotique, puis habitée, mais aussi de tout un ensemble d'activités que nous conduisons pour nous préparer. Et on peut se préparer comme habitant du village lunaire sur Terre. Et donc des activités de recherche et développement, des activités de... il y a des entrepreneurs, il y a des ingénieurs, il y a même des artistes, il y a des designers, tous les métiers vont être nécessaires sur notre 8e continent. Quel est notre 8e continent ? La Lune. Hein. Alors donc, nous avons créé ce programme Euromoon Mars depuis plus de 10 ans. Et tous les ans, nous avons une dizaine de jeunes professionnels qui viennent se former avec nous. Donc, je les ai mis ici sur la liste. Comme je n'avais pas assez de place, j'ai mis que les prénoms. Hein, donc, nous cherchons aussi des volontaires pour les prochaines activités. Donc, ceci se place dans le contexte de ce que nous faisons à l'Agence spatiale européenne, ESA, donc pour l'exploration et l'étude du système solaire. Et pour cela, donc, nous avons des missions qui étudient le Soleil. C'est par exemple des images obtenues par SOHO, le Solar Heliospheric Observatory, donc qui observe le Soleil, sa surface, son intérieur, en utilisant ces ondes pour connaître l'intérieur du Soleil. Mais si on observe sa couronne, ainsi que le vent solaire. Nous étudions Mercure. Nous avons une sonde qui a été lancée en octobre dernier, qui s'appelle Baby Colombo, qui est en chemin vers Mercure. Donc, cette planète aussi assez mystérieuse. Nous avons étudié Vénus, avec Vénus Express, donc avec une atmosphère en rotation très rapide, et aussi ici une vue d'épaule, des processus sur une planète qui ressemble très fortement à la Terre. C'est presque la jumelle de la Terre, mais elle a tourné mal. Et j'espère que la Terre ne va pas faire la même chose, donc il va falloir protéger un peu notre climat pour éviter que la Terre devienne Vénus, ce qui est, bon, serait néfaste à l'espèce humaine, mais peut-être que d'autres espèces pourraient s'y habiter et s'y adapter. Notre planète, bien sûr, et dans le programme de l'Agence spatiale européenne, nous avons 25% de nos moyens pour étudier notre planète, l'explorer, mais aussi la surveiller en permanence, aussi avec des programmes qui sont cofinancés par la Commission européenne. Évidemment, le 8e continent de la Terre, vous l'avez vu, c'est la Lune. Et donc Mars, le petit frère de la Terre, qui a aussi des aspects, des paysages, des processus avec de l'eau, de la glace, une évolution très spécifique et peut-être qui a abrité la vie. Nous avons aussi un programme d'études de petits corps, des astéroïdes ou de, ici c'est Phobos autour de Mars et aussi de comètes. Et nous avons aussi donc exploré l'endroit autour de Saturne, de Titan, où nous avons même envoyé une sonde qui s'appelait Huygens, qui a traversé l'atmosphère et qui s'est posée à la surface, donc à une distance jamais atteinte auparavant. Ça, c'est ce que l'ESA a fait. Alors, je voudrais parler de mon bébé, hein, le petit bébé, c'est la mission Smartin, c'est le bébé que nous avons envoyé vers la Lune et en fait, est un satellite qui a une taille de, c'est comme une machine à laver, 1 mètre cube, avec 14 mètres de panneaux solaires, puisqu'en fait, l'idée, c'était d'utiliser l'énergie solaire pour créer de l'électricité, pour accélérer des charges à très grande vitesse, et de façon à pousser ce satellite de 300 kg, 350 kg, vers la Lune. Et nous avons d'abord mis ce satellite en orbite avec une fusée Ariane 5, et puis, en utilisant simplement l'énergie solaire électrique, nous sommes allés de la Terre à la Lune. Et je vous montrerai après, plus tard, les performances de notre engin. Mais c'est aussi un moyen de développer une mission en une courte échelle de temps, sur 3 ans simplement, aussi faire de la science, mettre des technologies assez performantes. Et donc, 370 kg de satellites lancés avec Ariane 5 et simplement 20 kg de charge utile. Ce Martin, c'est aussi l'exemple de l'Europe vers la Lune. Hein, ça a été fait essentiellement avec une contribution, donc votre contribution, hein, comme contribuable, vous financez le budget de l'Agence spatiale européenne, comme 22 pays, mais aussi contribution du savoir-faire des industries, aussi des instituts, des centres de recherche, le CNRS, le centre allemand, et aussi donc même des instituts académiques et des chercheurs qui développent des instruments et qui analysent les données de ces instruments. Alors, à bord de ce Martin, il y avait des technologies très innovantes, en particulier des technologies de communication. Donc là, nous avions fait les premiers essais de communication optique entre la Terre et un satellite lointain. Donc là, c'est simple, vous avez un télescope. Ici, nous avons utilisé un télescope de 1 mètre à l'observatoire des Canaries, à Tenerife. Vous l'équipez d'un laser très puissant et vous tirez sur votre satellite. Et donc, avec une certaine distance, hein, quand même, de sécurité, à grande distance, vous êtes capable donc, de détecter ce signal que vous pouvez moduler, et donc vous pouvez, en fait, communiquer optiquement entre la Terre et les satellites. Et c'était une première, on n'avait jamais atteint cette distance de la Terre à la Lune avec des liaisons optiques. Et ceci vous permet d'envoyer des données à plus haut débit qu'en utilisant simplement des micro-ondes. Mais nous avions aussi à bord un système de radio à très haute fréquence qui permet aussi d'avoir un plus grand débit dans l'échange de données. Donc ça, c'est la première démonstration de communication pour des grandes distances. Et ces techniques ont été ensuite utilisées à des distances interplanétaires. Donc nous avons utilisé maintenant ces antennes dans la bande Ka à haute fréquence vers Mars. Nous allons l'utiliser aussi vers Mercure. Et nous sommes en train de tester des liaisons optiques entre Mars et la Terre. À bord aussi, dans le satellite, il y avait des technologies nouvelles, des panneaux solaires à très haute performance, efficacité de 25%, ça c'est très bon, mais aussi des panneaux qui peuvent survivre sous les conditions extrêmes de l'espace, température, vide, radiation. Nous avions aussi à bord un ordinateur de bord, alors très astucieux, que nous avions emprunté à l'industrie automobile. Quand vous avez une voiture, vous avez tous les senseurs, les signaux qui viennent des senseurs, des caméras, des senseurs divers, sont gérés par un ordinateur de bord. Mais ce que nous avons fait, nous n'avons pas réinventé la roue, enfin, ou la voiture, nous avons transformé ce système de contrôle qui venait de la voiture pour l'espace. Évidemment, il a fallu donc l'adapter pour les conditions extrêmes d'espace, mais donc nous avons utilisé cette solution à bord de notre satellite. Nous avions aussi d'abord des batteries à lithium, ion lithium, très intelligentes, des batteries qui, d'elles-mêmes, peuvent déterminer quel est leur régime de travail. Donc ça, c'est des technologies qui sont maintenant utilisées sur d'autres satellites de science ou même d'application. Alors, à bord aussi, nous avons, comme je dis, nous sommes très fiers de notre bébé, et notre bébé est un super bébé. Il a des yeux qui peuvent voir dans l'infrarouge, dans les rayons X, et aussi, donc, très miniaturisé. Par exemple, ici, c'est une caméra. Le senseur de la caméra fait la taille d'un œil humain. Après, on a ajouté un petit zoom hein, pour avoir des belles images. Et aussi, donc, un spectromètre à rayons X qui ne pèse que 5 kg, donc la taille d'un toaster, d'un grille-pain, et qui est capable de mesurer la composition des éléments chimiques qui forment les roches. Et puis, donc, un spectromètre infrarouge, lui, de 2,5 kg, 10 fois plus léger que les spectromètres infrarouges que les Américains ont lancés autour de la Lune ou d'autres planètes. Donc là, un grand effort de miniaturisation. Nous étions même forcés, puisque nous n'avions que 20 kg au total pour 6 instruments. Bon, il a fallu faire petit, mais nous avons réussi ce défi. Aussi, nous avons testé des techniques d'autonomie. Et donc, quand vous allez envoyer des sondes dans l'espace lointain, vous voulez éviter d'avoir à communiquer avec elles tout le temps, en particulier quand elles sont à grande distance. Donc, nous avons placé à bord des senseurs qui peuvent indiquer de façon automatique où se trouve la sonde et puis et avoir des commandes automatiques. Et donc, là, c'est des senseurs qui déterminent où est la Lune, où est la Terre, où est le Soleil, où sont, par rapport aux étoiles, et ainsi elles peuvent se repérer et elles peuvent examiner où se trouve le satellite à tout moment. Donc ça, c'est des techniques que nous avons testées avec Smartin. Mais c'est vrai que le test principal de Smartin, c'était de démontrer, d'une part, que nous pouvions aller dans l'espace lointain avec la propulsion solaire électrique, mais aussi que nous étions capables de conduire ce véhicule, parce que c'est un mode de transport assez, assez spécial. Et voilà l'engin. C'est un engin qui est avec une ouverture, c'est assez petit, hein, c'est à peu près 10 cm, cet engin, et on a un réservoir avec de l'ordre de 60 litres de fuel. Le fuel, ce n'est pas du fuel organique, en fait, c'est du xénon, donc c'est un gaz rare que l'on accélère avec le champ électrique créé par l'électricité à partir des panneaux solaires. On les éjecte à telle vitesse qu'on a un effet de poussée très efficace par rapport à la masse que l'on perd. Et de fait, c'est une poussée assez faible. Hein. C'est une poussée d'environ 7 grammes. Alors 7 grammes, je prends quelques feuilles de papier, c'est le poids de ces quelques feuilles de papier. Et ces 7 grammes, ça suffit à pousser un satellite de 350 kg. Alors ça, sur Terre, ça ne marche pas. Mais quand vous êtes déjà en orbite autour de la Terre, vous pouvez utiliser cette poussée et au bout de 6 mois, vous arrivez à avoir une vitesse significative qui vous permet d'aller en principe vers la Lune. Alors de fait, donc, nous n'avons utilisé que 60 litres de xénon pour aller vers la Lune. Alors vous faites le petit calcul, je ne sais pas qu'est-ce que vous conduisez comme véhicule, 60 litres pour faire 300 000 km, c'est quand même assez efficace. De fait, donc, nous sommes entrés dans le livre Guinness des records pour la plus basse consommation de carburant pour aller jusqu'à la Lune. Alors, c'est 300 000 km en ligne directe. De fait, nous avons fait ça sur plein de spirales, comme je vous le montrerai. Et en tout, nous avons fait 10 millions de kilomètres pour aller jusqu'à la Lune. Alors, donc, ici, vous avez représenté voilà, notre trajectoire. Nous avons utilisé Ariane 5 comme fusée. Alors, Ariane 5, c'est une belle fusée, mais ça coûte assez cher. Hein, c'est 120 millions d'euros le lancement. Si vous êtes un site de télécommunication, dans ça, je n'avais pas ça dans mon budget. Et donc, ce que nous avons trouvé, c'est que nous avons partagé le lancement avec deux satellites d'application, un indien et un autre, qui ont payé pratiquement toute la facture. Et nous étions entre les deux, nous avons payé moins de 10% du prix du lancement. Et donc, ça, c'est une belle qualité d'Ariane 5, la possibilité de lancement double ou multiple. Et là, ils nous ont laissé sur une orbite qui s'appelle orbite de transfert géostationnaire. C'est orbite, donc, vous êtes près de la Terre, et puis ici, vous êtes à 36 000 km. Et à partir de ces orbites, c'est de là qu'on lance les satellites télécom. Après, ils ont leur moteur d'appoint qui circularise l'orbite. Mais après, nous, ils nous ont laissé sur cette orbite, et en utilisant l'énergie solaire simplement, nous sommes allés de cette orbite en spiralant jusqu'à la Lune. Donc, d'abord, nous avons poussé continuellement parce qu'il y a des ceintures de radiation autour de la Terre. Et c'est dangereux pour les satellites. Nous avons même rencontré, il y a eu un orage magnétique énorme qui s'appelait le Halloween Storm qui a détruit un certain nombre de satellites, aussi qui nous a abasourdis, mais nous avons survécu. Et puis, au bout de 3 mois, nous avons commencé à... Nous étions sur une orbite de plus en plus inclinée. Et puis, au bout de... En fait, 18 mois... Nous sommes arrivés près de la Lune, nous avons fait une manœuvre de capture, puis en utilisant la propulsion solaire, de nouveau, nous sommes rapprochés de la Lune. Alors, vraiment, ça a pris beaucoup de temps, 18 mois pour aller jusqu'à la Lune. Les Américains, à l'époque d'Apollo, ils sont allés en 4 jours. Où est le progrès? Mais enfin, c'est dit, ça, nous avons pu le faire donc, en consommant beaucoup moins de fuel. Et ça nous a valu un deuxième entrée dans le livre de records de Guinness. La plus longue mission vers la Lune, dis-moi. Mais alors, ce que nous avons fait, c'est... l'idée, c'était de montrer que nous pouvions, par exemple, conduire. En fait, c'était une conduite assez spéciale où il a fallu optimiser les moments où on faisait fonctionner le moteur, etc. Et ce type de navigation, de conduite... C'est ce que nous utilisons maintenant pour aller vers Mercure ou vers Mars. Mais en allant vers la Lune, nous n'avons pas pris de vacances, en fait. Nous avons utilisé cette période pour tester tous les instruments à bord. Et donc, par exemple, après 3 mois à travers les ceintures de radiation, la première chose que nous avons fait, nous avons testé notre caméra. Vers quoi nous l'avons pointé ? Vers le plus beau continent sur notre planète, vers l'Europe. Donc, ça, c'est les premières images que nous avons obtenues. L'Europe, vous voyez, ici, très, très typique. Moi, j'habite aux Pays-Bas, il fait toujours beau. Et là, par contre, sur le sud de la France, il y a beaucoup de nuages. Hein. Vous pouvez voir. Et puis, au fur et à mesure du temps, nous sommes éloignés. Et là, donc, ça, c'est en nous éloignant de la Terre. Tout à coup, là, on voit une partie de la Terre, ici. Et après, au bout de plus de 6 mois, hop, la Terre commence à rentrer dans le champ de vue. Au bout d'un an, on avait la Terre tout entière dans notre caméra. D'ailleurs, un an, c'était l'anniversaire de notre lancement. Donc, on a regardé l'Amérique du Sud, puisque nous avons lancé ce Martin à partir de la Guyane française. Et alors, j'ai replacé, voilà, le zoom de la première image obtenue. Donc, c'est là où je travaille, à l'ESTEC. ESTEC, c'est le Centre de Recherche Technologique Spatiale de l'Agence Spatiale Européenne, qui est situé aux Pays-Bas. Qui est déjà allé à l'ESTEC ? Oh, d'accord. Donc, j'espère que, lorsque vous passez par les Pays-Bas, n'hésitez pas à me contacter, et puis je peux vous faire visiter l'ESTEC. Hein, c'est le plus grand centre spatial en Europe. On peut voir l'endroit où nous développons les satellites, où nous les torturons, où nous les mettons au chaud, au froid, dans le vide, où nous les préparons pour les conditions dures de l'espace. Donc voilà, c'est là où je travaille. Et puis, j'ai représenté Paris. Et puis, il y a un certain nombre d'endroits où, il y a quelques semaines, nous avons fait un tour pour parler de la Lune. Parce qu'en fait, c'est vrai, hein, l'un de vous, en attendant, m'a dit « Ah oui, c'est vraiment l'année de la Lune. Hein, » Non seulement on célèbre ce qui s'est fait il y a 50 ans, mais il y a beaucoup de choses qui ont trait à la Lune, des lancements, des nouveaux résultats. Et en fait, on dit même que ce sera la prochaine décade, la décade de la Lune. Mais on en parlera plus loin. Donc voilà, donc, notre orbite, et puis... Nous sommes arrivés vers la Lune, et de là, nous pouvions faire un peu de science. Quel type de science on peut faire en étudiant la Lune ? Alors, on peut faire la science de la tectonique. Vous savez ce que c'est la tectonique ? C'est une planète, donc il y a des déformations de croûte qui expriment, par exemple, que la planète se refroidit, elle se contracte, elle a des rides. Et à partir de ces rides, on peut comprendre, justement, des processus internes de refroidissement de l'intérieur. Il y a aussi des processus qui changent, qui créent des cratères, ce sont des impacts de corps, de météorites ou d'embryons d'astéroïdes qui peuvent impacter la Lune. Alors on peut analyser ces cratères d'impact, on voit des éjectas, on voit des sortes de laves fondues à l'endroit de l'impact. On peut même compter tous les petits cratères. Et à partir de là, voir qu'il y a des différences d'âge entre les terrains de la Lune. Vous avez tous regardé la Lune au télescope. Quand vous regardez la Lune au télescope, vous avez des régions, les marées, Maria, donc le pluriel, le marais, c'est Maria. Hein. Et donc, ces Maria, donc, elles sont plus sombres et elles ont beaucoup moins de cratères parce que, en fait, c'était d'anciens bassins d'impact géants qui ont été remplis de lave. Qui s'est refroidi, bien lisse, et il y a simplement entre 2 et 3 milliards d'années. Donc un peu plus jeune que d'autres régions de la Lune qui ont 4,5 milliards d'années. Donc on peut avoir une chronologie de la Lune en comptant les cratères. On voit aussi des processus volcaniques. Hein, donc on a de la lave qui vient à partir de couloirs qui arrivent à la surface, mais il y a parfois aussi des explosions, donc avec des pyroclastiques, donc avec des cendres qui sont expulsés de ces monts volcaniques. Aussi, au pôle, il y a des processus très intéressants. Il fait très froid au pôle. Alors, dans les régions les plus sombres que nous avons cartographiées, il y a des températures de moins 200 degrés Celsius. À ces températures, la glace peut rester de façon indéfinie. Et aussi, bon, il y a des impacts. Alors, des impacts de toutes sortes. Alors, il y a même un nouvel impact. Et cet impact, c'est celui que nous avons créé nous-mêmes en fin de vie, Quand vous êtes en orbite autour de la Lune, en orbite proche, ces orbites sont un peu perturbées et si vous êtes à court de fuel, à la fin, vous devez avoir un impact. Donc c'est une sorte de chronique d'une mort avancée. Et donc vous savez que nous étions à court de carburant et donc nous avons en fait contrôlé le moment exact de l'impact de façon à ce que l'on puisse observer le flash de l'impact. Et même, donc on est arrivé à incidence très rasante, nous avons en fait rebondi sur la Lune sur une distance d'une vingtaine de kilomètres. Et nous avions averti un de nos collègues dont nous parlions, notre Christian Veillet, qui était directeur de l'Observatoire de Canada-France Hawaï, et qui a pointé ses télescopes de 3,60 m, des détecteurs infrarouges, et qui a mesuré en temps réel donc le flash créé par l'impact et aussi les débris, ça c'est sur une échelle de temps de 1 minute. Et qui sont. Et là, c'était assez émouvant. Au moment que nous attendions l'impact, il a eu lieu à la seconde près. Nous avons perdu le signal radio. Et sur l'écran où nous avions projeté les données que nous envoyait Christian Veillet, tout à coup, on voit ce flash et on voit ces. C'était assez émouvant. Et les journalistes qui étaient là étaient vraiment très impressionnés du pouvoir de la science, de pouvoir prédire qu'un impact puisse avoir lieu. Et voilà, c'est des bons moments. Et puis, plus tard, nous avons, quelques jours après, en analysant les données, nous avons pu voir ces débris. Et nous avions prédit aussi que le cratère créé par cet impact devrait être assez allongé, faire une dizaine de mètres de long. Et nous avons donc lancé un défi à toutes les autres équipes qui avaient des orbiteurs autour de la Lune, trouver l'impact. J'avais même des bouteilles de champagne que nous avions donc produit au moment du lancement de ce matin. J'avais gardé une bouteille pour le premier qui trouvait un impact. Et nos amis canadiens et américains ont finalement trouvé l'impact 10 ans après. Et donc, ça leur a pris du temps. Mais... Et donc, voilà, on a bu la bouteille de champagne ensemble. Cuvée ce matin, avec une belle étiquette ce matin. Alors, autour de la Lune, qu'est-ce que nous avons fait? Ben, nous avons fait des cartes des régions polaires en particulier. Et là, ces régions polaires n'avaient pas été vraiment observées très bien. Oh, pardon. Et nous avons, par exemple, ici, ça c'est le pôle sud, et là, et il y a des cratères. Ces cratères-là, il y a une sorte d'ombre permanente dans ces cratères, dans des températures de moins de 100 degrés. Et puis, nous avons aussi des régions, un plus grand cratère ici, où il y a un pic central de rebond lors de l'impact. Il y a des dépôts de glace qui ont été détectés dans ces régions. Alors, ces cratères, vous voyez, portent des noms. Shackleton, Amundsen, c'est des noms d'explorateurs polaires terrestres hein, sur chacun des deux pôles. Et donc, on a donné le nom de ces cratères en leur honneur. Qui veut un cratère sur la Lune? Personne n'est intéressé à avoir un cratère qui porte son nom? Parce que vous connaissez les règles. Ah oui, alors c'est très simple. Il faut être un scientifique renommé. Bon, ça, je n'en doute pas. Après, il faut être décédé. Il faut attendre 3 ans hein, pour qu'on puisse proposer votre nom. Et après, l'Union Astronomique Internationale, bon, c'est nos collègues d'à côté, on peut leur demander, puisse donc décider de donner votre nom à un cratère lunaire. Alors, un endroit aussi, cette carte aussi intéressante, cette partie ici, cette partie est vers la Terre, c'est la face visible de la Lune, et cette partie est la face cachée. Vous savez que la Lune présente toujours la même face vers nous, depuis des temps immémorables, et donc on n'a jamais vu la face cachée avant l'ère spatiale. Alors, petite quiz. Qui a vu pour la première fois la face cachée de la Lune? Était-il soviétique ou était-il américain? Soviétique? Ah, très bien. Et qui était-ce? Quel était l'astronaute qui a vu la première fois la face cachée de la Lune? Alors, c'était en effet un soviétique. C'était un ver de terre qui était lancé sur la sonde Luna 5, Luna en 59. C'était une des premières Luna. Voilà, une sonde qui a, pour la première fois, survolé la face cachée de la Lune et qui a délivré des images de la face cachée. On a découvert que c'était complètement différent de la face visible. Beaucoup moins de Maria, Il y a une certaine petite Maria, une a été appelée la mère des Moscovites. Ah, ils ont pris tous les noms, là. Hein, comme ils ont découvert la face cachée, là, nos amis soviétiques, ils ont donné beaucoup de noms aux détails sur la face cachée. Alors, près du pôle sud... Ah oui, alors, donc, vous pouvez mémoriser cette carte, puisque, évidemment, certains d'entre vous vont aller me rejoindre sur le pôle, sur les villages lunaires. Et ça, c'est la carte qui va être publiée dans le guide du routard lunaire, hein, qu'il faut prendre avec vous. C'est assez utile parce qu'il y a des endroits qui sont bien illuminés, donc il faut prévoir, hein, quand vous allez faire une petite expédition, depuis le pôle sud qui est ici jusque là, vous pouvez prévoir d'être toujours au soleil. Hein, si vous prévoyez, évidemment, la lune tourne, donc il y a plusieurs endroits qui sont ensoleillés à divers moments, mais il y a un moyen d'arriver d'un point à un autre en restant au soleil. Il y a même un endroit près du pôle sud de la lune. Alors, le pôle sud est ici, sur le bord de ce cratère Shackleton, qui fait 20 km. Il y a un endroit que nous avons découvert à simplement 10 km du pôle sud. Et il y a une élévation suffisante. Et bon, l'axe de rotation de la Lune est pratiquement perpendiculaire à l'écliptique, ce qui fait que, il y a, depuis cet endroit, le soleil est toujours au-dessus de l'horizon. Et donc, on peut dire que c'est un pic de lumière éternelle. Bon, belle découverte. Bon, Camille Flammarion avait prédit cet effet et appelé ça le pic de lumière éternelle, mais nous l'avons trouvé avec Smartin. Et nous avons aussi mesuré sur toutes les saisons qu'en fait, il est quasi éternel. Donc, en été, il y a 100% d'illumination. En hiver, 80%. Et cet endroit, donc, qui fait environ 1 km², si vous déposez un lander, vous avez donc 80% d'illumination. Vous le mettez sur une petite tour et là, vous pouvez atteindre 100%. Donc, il y a maintenant une course à la Lune pour aller se poser à cet endroit. Est-ce qu'il y a des avocats ou des juristes dans la salle? Il y a un traité de l'espace qui inclut la Lune et qui dit que personne ne peut s'approprier la Lune. Et aussi... qu'on ne peut pas avoir d'activité militaire sur la Lune et on ne peut pas avoir d'armes de destruction massive. Ça a été signé en 69. Il y avait la course à l'armement. Et on s'est dit, oh là là, mettons-nous d'accord, évitons de militariser la Lune. Et par miracle, les pays ont signé ce traité et on ne veut vraiment pas changer ça. On veut garder la situation telle qu'elle est. États-Unis, Russie, tous les gros pays... Pratiquement tout le monde a signé cette charte. Mais il y a aussi une autre clause, c'est que si vous avez une expérience à un endroit, personne ne peut interférer avec votre expérience. Donc moi, j'essaie de développer un lander qui va allunir là. Je dis, oh, je fais mon expérience là-bas, j'aurai ma tour solaire. Voilà. Ça sera bien plus cher que Paris, hein, en termes de prix au mètre carré. C'est... 100 000 euros au mètre carré, facilement. Et donc, il y a la course pour aller se poser là-bas. Alors, évidemment, on voudrait le faire avant que des puissances commerciales l'occupent. Donc, au moins, l'occuper, puis redistribuer un petit peu de cette richesse d'énergie solaire à tous les usagers. Donc, aidez-nous. Nous essayons de construire une mission qui ira de façon robotique se poser sur le pic de lumière éternelle. Sinon, la Lune, à quoi ça sert? Ça sert aussi pour étudier l'histoire de la Terre, comment la planète fonctionne, ce qui s'est passé dans le système solaire et un environnement spécial. Et de fait, après Smartin, la première mission donc orbitale du millénaire, nous avons été suivis par les Chinois, les Japonais, qui ont lancé des plus grosses missions, donc en 2007, les Chinois de nouveau en 2010, première image de la température sur la face visible, la face cachée. Les Indiens aussi, une mission qui a découvert la présence d'eau sur les pôles lunaires. Alors ici, un survol de certaines découvertes. Vous voyez ici une image de la face visible, de la gravité de la face visible. Vous avez ces régions, la contrepartie des marées, qui sont remplies de basalte sur quelques kilomètres, et ça fait un surpoids que vous pouvez voir dans les données en gravité. Sur la face cachée, c'est complètement différent. Il y a eu aussi des impacts, mais ils ont été compensés complètement par la couche juste sous la croûte. Et donc, c'est la face cachée et la face visible ont des propriétés différentes. Nous avons pu voir aussi que, par exemple, en termes de topographie, la face visible, donc, il y a ces marais, il y a des régions très cratérisées, assez anciennes, mais c'est quand même assez lisse. Regardez sur la face cachée, il y a un bourrelet énorme de 10 km sur tout l'équateur. Il y a un endroit au sud avec un trou énorme de 2500 km, le plus grand bassin d'impact dans le système solaire. Et ceci a été tellement violent que l'on pense qu'il y a peut-être même des résidus du manteau qui ont été exposés à la surface. Alors, mes collègues américains voulaient avoir une mission qui allait chercher des échantillons du manteau. Alors, ils avaient une solution, c'est simple, nous allons mettre une expérience et nous allons faire un trou de 10 km. Alors, on leur a dit, si vous allez ici, la nature a fait le travail pour vous. Elle a déjà creusé le trou pour vous. Et en fait, on peut même calculer qu'il y a des endroits ici où la croûte ici fait 20 km, ici elle fait 10 km, mais dans ces trous-là, la croûte fait pratiquement 0 km. Et donc des endroits où vous avez à la surface déjà des échantillons du manteau. Voilà, ça c'est donc une vue de la croûte, ça c'est la face cachée et la face visible. Alors, nous avons aussi après ce Martin, beaucoup d'imagerie à très haute résolution, avec une mission japonaise, avec aussi une mission chinoise et une mission américaine, qui est maintenant capable même de voir un demi-mètre à la surface de la Lune. Et au tel point qu'ils ont été capables de voir les alunisseurs déposés par les Américains et les Soviétiques. Les Japonais aussi ont envoyé des radars qui peuvent regarder sous la surface. Et avec ces radars, ils ont pu voir qu'il y avait diverses couches de lave qui ont été déposées. Mais même, il y a des endroits où il y a des cavités. Il y a des cavités de dizaines de kilomètres sous la surface. Des endroits où on pourrait avoir des grottes où nous pourrions construire des villes protégées des radiations, protégées des pluies de météorites. Et bon, aussi un autre exemple du fait que la Lune, en particulier la face visible, a toute une région, celle que nous voyons en fait dans l'océan des tempêtes, qui a des âges assez récents, donc de l'ordre de 1 milliard d'années, au lieu de 3 milliards d'années sur les autres marias. Et il y a même un peu de radioactivité dans ces régions. Et la prochaine mission prévue par les Chinois va aller là et va essayer de retourner des échantillons de ces endroits les plus jeunes de la Lune. Donc là, j'essaie de faire un peu le bilan de certaines nouvelles découvertes, en particulier cette mission indienne, Chandrayaan 1, qui a découvert dans les pôles la signature de composés donc hydratés. Alors, non seulement hydratés, des roches hydratées, mais aussi une sorte de petite couverture qui change avec le temps au cours de la journée. Donc, une sorte de composé donc hydraté qui se déplace comme une respiration de la Lune. Au cours de la journée, ça dure, sur la Lune, un mois. Hein, oui, un mois. Et les Américains aussi ont eu toute une série de missions très intéressantes où ils ont pu étudier cette interaction entre la surface et l'environnement lunaire. Il y a une vingtaine d'années, nous avons formé un groupe, ce groupe international d'exploration lunaire, entre 15 agences spatiales, donc l'ESA, la NASA, les Russes, les Chinois, etc. Et nous sommes dit, il va falloir se donner une feuille de route logique pour étudier la Lune, explorer la Lune. Et nous nous sommes dit, il va falloir commencer par des missions précurseurs en orbite, une flottille orbitale pour cartographier, pour voir quelles sont les questions scientifiques, les ressources. Ceci, nous l'avons pratiquement terminé maintenant, la première génération. Et maintenant, nous entrons dans la deuxième étape, qui va être celle de construire un village robotique à la surface de la Lune, avec des administrateurs, des rovers. Et puis, nous aurons une phase où il va y avoir des humains pour des missions de courte durée, puis un village avec des humains en permanence sur la Lune. Donc l'humanité sera présente sur la Lune sans interruption. Et nous pensons que d'ici 2030, ceci est faisable. Il pourrait y avoir entre 10 et 20 personnes, 10-20 humains à la surface de la Lune, mais pour cela, il va falloir les aider avec des rovers qui vont être pilotés depuis la Terre. Il y aura toute une communauté. Et donc, ça pourrait impliquer un grand nombre d'entre vous. Je vois ici un futur astronaute qui pourrait marcher sur la Lune. Bon, peut-être que certains d'entre nous resteront sur Terre et piloteront les robots qui vont vous aider. Et pour cela, il faut faire ce que l'on dit. Donc, nous avons commencé à tester ce que nous pourrions faire à partir de ces alunissaires. Et en particulier, nous avons construit nous-mêmes un alunisseur à partir duquel nous pouvons déployer des robots, nous pouvons avoir des caméras, des spectromètres pour analyser les échantillons. Ceci, il y a 10 ans, à l'époque où il y avait une compétition financée par Google, qui s'appelle Google Lunaris Prize, où c'était au premier qui pouvait allunir, envoyer une vidéo, bouger 500 mètres, envoyer une autre vidéo. Si vous pouviez faire ça, c'était 20 millions de dollars de prix. Donc il y a une vingtaine d'équipes qui sont mises dans la compétition. Et en fait, elles se sont rendues compte que pour gagner la compétition, il fallait investir 100 millions. Okay. Mais, ceci dit, elles ont quand même joué le jeu parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait en fait des affaires à faire. Il y avait la possibilité de développer des industries qui peuvent envoyer donc des instruments, des charges utiles, des échantillons sur la Lune. Et comme un service de FedEx ou la poste vers la Lune, et en demandant un coût typiquement de 1 million d'euros par kilo, vous pouvez donc avoir un service de livraison postale vers la Lune. Et il y a 6-7 de ces compagnies qui sont encore en opération et qui se préparent l'année prochaine à lancer des charges utiles. Donc ils ont trouvé un modèle économique, ils ont trouvé des clients pour aller vers la Lune à ce prix. Donc, je ne sais pas si vous avez... qui a 1 million à me prêter, là? En fait, 1 million pour une expérience de recherche, c'est tout à fait... Si vous pouvez la miniaturiser, vous pouvez envoyer un rover, par exemple, pour quelques kilos. Et ça peut être une expérience fabuleuse. Il y a même d'autres catégories. Bon, ben là, nous avons regardé la possibilité d'envoyer un télescope. Alors, voilà un télescope que nous avons mis sur notre alunisseur et nous l'avons piloté pour regarder le ciel. Mais ce télescope, une fois sur la Lune, pourrait regarder la Terre, pour regarder la galaxie, pour regarder dans l'ultraviolet, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et on peut suivre des étoiles variables. Nous avions même le projet de regarder des petites perturbations, donc de lensing, des effets de lentilles gravitationnelles depuis la Lune, qui vous permettraient de faire la cartographie de la matière noire dans le cosmos. Nous avions même un article là-dessus avec des collègues de l'IAP, avec Yannick Magnier, voilà, le papa de Euclide. Donc ici, ça, c'est un collaborateur qui pilote ce télescope à distance depuis un laboratoire que nous avons construit à proximité. Donc nous avons aussi joué à faire de la coopération entre robots. Donc déployer 2 robots, ils travaillent entre eux avec l'alunisseur. Et ici, un niveau plus sérieux, c'est l'agence aérospatiale allemande, le DLR, qui a un projet, Robex, 14 millions d'euros de financement, où ils ont construit un grand alunisseur, 2 rovers très intelligents, qui sont capables de travailler ensemble avec des bras robotiques très habiles. Et vous les voyez ici à l'œuvre. Donc, vous voyez le rover qui va chercher des expériences sur l'alunisseur. Il peut même se mettre à proximité de l'alunisseur pour se recharger par induction. Il prend une boîte qui a toutes les interfaces pour qu'elle puisse être manipulée avec le bras robotique du rover. Il prend cette boîte, elle contient un sismomètre. Et après, il va installer et enterrer ce sismomètre dans les bonnes conditions pour mesurer les tremblements de Lune. Mais nous regardons aussi la possibilité pour la prochaine campagne que nous prévoyons l'année prochaine dans l'ETNA de déployer des télescopes, des petits télescopes ou des antennes radio. Ces antennes radio qui pourraient être placées, par exemple, pour observer le Soleil, Jupiter, mais aussi sur la face cachée de la Lune, pour observer l'univers, en particulier les premiers âges de l'univers, dans un endroit qui est le plus calme dans le système solaire. C'est le seul endroit où il n'y a pas les émissions venant de la Terre. Et donc, nous regardons maintenant des concepts pour tester de mettre des antennes radio. Nous avions d'ailleurs organisé un colloque il y a quelques années avec des collègues de l'IAP sur ce sujet, astronomie, cosmologie, interférométrie depuis la Lune. Et en effet, maintenant, il y a toute une... il y a toute une révolution maintenant de ce que l'on peut faire avec des robots. On peut utiliser des robots pour manipuler des satellites dans l'espace, des robots qui peuvent se déplacer avec des roues, avec des pattes, des robots qui peuvent monter sur des pentes, des robots un peu arachnides. Nous avons même un robot à taille humaine, et peut-être que celui-ci sera le prochain européen qui ira à la surface de la Lune, parce que là, c'est plus facile d'envoyer un robot. On essaye de les maintenir en vie, mais bon, si on rate, ils ne se plaignent pas. Ils n'ont pas de famille. Et donc, on aura peut-être aussi des précurseurs qui sont des robots. Et ces robots, d'ailleurs, on leur a appris à parler avec des humains. On peut leur serrer la main à distance. On a développé toute une série de techniques. Nous avons même des techniques où on pourra faire même de la chirurgie à distance en utilisant ces robots. Voilà. Alors, avec des étudiants de l'Université d'Amsterdam, nous faisons aussi des essais dans le terrain. Nous avons trouvé un volcan qui a explosé tout près d'ici, entre les Pays-Bas et l'Allemagne, il n'y a pas très longtemps, hein, 10 000 ans à peu près. Il y a 10 000 ans, donc c'est hier à l'échelle géologique, il y a une plume qui a explosé sous l'Europe et qui a déployé donc, des cendres de dizaines, cinquantaines de mètres, qui pourraient d'ailleurs réexploser dans le futur. Et donc nous sommes allés là-bas pour tester ces instruments, ces alunisseurs, comme s'ils étaient sur la Lune. Parce qu'il faut vraiment nous préparer avec ces instruments robotiques, les tester dans des conditions similaires à celles qu'ils vont rencontrer sur la Lune. En particulier, vous savez que ce village robotique a commencé il y a 5 ans. Nos amis chinois ont envoyé un grand alunisseur, 3 mètres de haut, et un rover, avec l'aide de l'ESA aussi, pour descendre les données. Et vous voyez l'alunisseur, là, d'instruments. Vous voyez le logo de la compagnie qu'il a construit. Hein, c'est... Et il y a même un télescope qui, depuis 5 ans, travaille, qui observe dans l'ultraviolet les étoiles et la Terre. Mais cette année, l'année de la Lune, les Chinois sont revenus à la surface de la Lune, mais sur la face cachée cette fois, avec un satellite de relais. Puis, une mission commerciale a même été lancée en février et elle a touché la Lune en avril. C'est une mission israélienne qui était développée simplement par des entrepreneurs israéliens. Bon, ils étaient un peu à court de financement à la fin, donc ils ont eu des sponsors israéliens qui les ont aidés. Et ils ont pratiquement... Enfin, ils ont atteint leur but, puisqu'ils ont touché la Lune. Alors, malheureusement, la fusée de la rétrofusée qui devait les faire atterrir, alunir en douceur, n'a pas fonctionné très bien. Donc, ils se sont écrasés avec force. Mais, en fait, ils ont fait un travail remarquable. Ils vont relancer leur mission. Mais c'était la première mission commerciale à toucher la Lune. Aussi, moi, nous-mêmes, je vous ai montré l'impact de ce Martin sur la Lune. Bon, c'était à 2 km par seconde. Ils ont fait un impact 10 fois moindre. Hein, 10 fois moins en vitesse, ça veut dire 100 fois moindre en énergie. Donc, ils doivent gagner encore un facteur de 10 et ils seront bons pour la prochaine alunissage. En Europe aussi, nous avons une mission... une compagnie s'appelle Pitti Scientist qui développe aussi un alunisseur qu'ils doivent lancer d'ici deux ans. Et ils ont trouvé des sponsors. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme sponsors? Sponsor de rover, Audi. Audi construit le quadro lunaire. Là, c'est bien. Vous allez mettre 50 ingénieurs là-dessus. C'est réglé. Communication. Oh, qui est-ce qui peut communiquer? Vodafone. Ils vont installer le 4G sur la Lune. Et... compagnie publicité Red Bull. Donc, ils ont trouvé des sponsors divers et ils se préparent et ils vous proposent d'envoyer des charges d'outils. Donc, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a une société du public, des conférences publiques de l'IAP? Vous pouvez vous collecter et envoyer peut-être une expérience sur la Lune. 1 000 000 d'euros par kilo, j'ai des prix, on peut vous faire un rabais. Et nous regardons diverses choses très légères qui pourraient être emmenées. Qu'est-ce qu'on pourrait emmener sur la Lune? Alors, des expériences scientifiques, des rovers. Nous avons aussi regarder si nous pouvions emmener de la vie sur la Lune. Parce que nous l'avons déjà fait dans l'espace. Nous avons, par exemple, donc avec une équipe, envoyé une marmite autour de la Terre que nous avions mise sur une capsule qui avait passé 3 semaines en orbite autour de la Terre. Cette marmite s'appelle Biopan, qui contient plein d'échantillons vivants, des graines, il y a des champignons, des algues. Et nous avons mis dans l'espace, nous ouvrons le couvercle. Pendant 3 semaines, nous avons exposé à l'ultraviolet. On referme le couvercle, on ramène la capsule, et puis on analyse l'échantillon. Nous avons vu qu'il y a des échantillons vivants qui sont capables de survivre 3 semaines dans l'espace. Et donc, nous pourrions faire la même chose, les emmener sur la Lune. Nous avons emmené ces expériences sur la Station spatiale internationale. Et là, nous avons laissé 1 an et demi. Et il y a des espèces qui arrivent très bien à survivre dans ces conditions extrêmes. Il y a même un petit animal qui s'appelle un ourson d'eau. Vous connaissez ça ? Un petit ourson, c'est 1 millimètre. Vous le mettez dans l'eau, il nage. Vous le desséchez, il reste. Voilà, il dort. Et nous l'avons exposé 1 an et demi dans l'espace, complètement desséché. Et une fois ramené sur Terre, hop, dans l'eau, il se remet à nager. Donc il y a certaines espèces qui sont très résistantes aux conditions de l'espace. Alors, dans cette expérience, c'est un astronaute qui avait pris le plateau, qui l'avait mis dehors. Et puis voilà, vous voyez le plateau dehors avec ces différents organismes vivants qui avaient été exposés. Donc, on a parlé du village robotique. Le village robotique, il y a chaque année, vous allez entendre parler de missions vers la Lune, de tous les pays, d'entrepreneurs, mais aussi il y a des missions humaines qui sont en préparation. Et ces missions humaines vont nous aider à établir une présence durable, permanente, à la surface de la Lune. Pour cela, bon, il faut avoir des bonnes fusées pour arriver là-bas en douceur, il faut communiquer avec la Terre, opérer, survivre, surtout pour les astronautes, se déplacer pour explorer. Il faut aussi avoir une bonne collaboration entre humains, robots. Et sur la Lune, à différence de l'orbite, nous pouvons utiliser les ressources. Le sol, les glaces que nous avons découvertes. Mais aussi un autre défi, c'est celui d'avoir des usagers, des clients qui vont payer peut-être 80% de la note et de façon à ce que on puisse réaliser ça de façon économique pour le contribuable. Donc, à cause de cela, nous avons lancé donc un appel à idées aux scientifiques, mais aussi aux ingénieurs, aux industries, pour investir dans un programme qui serait une plateforme ouverte à tous, sur tous les pays, à tous les âges, à toutes les disciplines, et que nous appelons le village lunaire, et qui va permettre de mettre des humains sur la Lune de façon permanente, mais avoir aussi une activité au sol sur Terre d'innovation et de bénéfices pour tous. Donc nous avons fait des designs de systèmes, comment on peut utiliser des robots que l'on peut piloter depuis la Terre. Là, nous pourrions avoir des milliers d'opérateurs de robots depuis la Terre pour contrôler des tribus de robots à la surface de la Lune. Bon, nous avons aussi regardé la possibilité d'utiliser des modules autour de la Lune ou pour piloter certains de ces robots. Ici, par exemple, vous vous rappelez le Pic de Lumière Éternel. Voilà un petit parcours que nous avons essayé de tracer où vous pouvez rester toujours au soleil pendant une durée d'un mois et vous pouvez explorer des régions qui sont remplies de glace. Alors, pour cela, nous avons aussi un programme qui a commencé, qui s'appelle Euromoon Mars, où nous avons des jeunes qui s'entraînent à devenir les astronautes pour la Lune, pour demain. Donc là, c'est simple, je les enferme pour quelques jours dans un habitat. Là, c'est des jeunes de super-héros. Ils pilotent des rovers, ils prennent des échantillons, ils les analysent. Et ils ont même, au cas où ils ont oublié des outils, si vous avez oublié un vis sur la Lune, vous pouvez dire, oh, envoyez-moi des vis. Vous pouvez aussi l'imprimer à 3 dimensions. Là, vous avez une imprimante 3D où vous pouvez imprimer les pièces qui vous manquent. Nous avons même développé une application maintenant où on peut imprimer des tissus vivants. Au cas où vous vous brûlez ou si vous avez un accident. Alors, avec ces jeunes, mais aussi des experts, nous avons une campagne où tous les ans, ils vont passer 2 semaines sur la Lune ou sur Mars. Et donc, ça, c'est dans le désert de l'Utah. Ils font des expériences de terrain, de laboratoire, ils testent des instruments, Il regarde comment est l'habitat, comment l'améliorer, mais aussi comment un équipage international très divers peut travailler ensemble sans conflit. Et aussi, ils apprennent ces techniques et ils les communiquent à leurs collègues. Bon, on a parlé de Mars très peu, mais parfois, on peut passer du temps sur Mars. C'est des images qu'on a obtenues de Mars avec Mars Express. Et voilà à quoi ressemblent ces paysages dans l'Utah qui aussi ont eu de l'eau dans le passé avec des motifs géologiques similaires à ce que l'on peut trouver sur Mars ou sur la Lune. Alors, à l'intérieur de cette base, ils ont accès à des instruments tels qu'on va les utiliser sur la Lune, à rayons X pour analyser la composition des roches. On va voir des microscopes pour chercher éventuellement aussi des... Alors, ici, par exemple, c'est des microscopes où on a détecté la présence de bactéries qui, en fait, se nourrissent de roches. Et puis, donc, s'ils sortent de leur habitat, ils doivent mettre le costume de sortie extravéhiculaire. Et là, par exemple, ils prennent des échantillons en profondeur, ils creusent avec la foreuse, et on peut voir comment, par exemple, la glace ou la matière organique est distribuée en profondeur. Donc, il y a aussi des expériences que nous avons conduites avec l'école de l'air. Donc, là, c'est simple. Ils m'envoyaient 3 cadets de l'espace et j'avais 3 scientifiques et on voyait comment des militaires travaillaient avec des civils. Et c'est très intéressant aussi comme discipline. Alors, voilà des images de ce volcan tout près d'ici, dans la région de Eifel. Voilà cette couche de 25 mètres qui a été déposée en 3 semaines, des explosions volcaniques. Et là, nous avons des astronautes, un analyseur, des rovers qui travaillent ensemble. Nous avons aussi un programme où nous apprenons à marcher sur la Lune. Avec un sixième de gravité, vous avez vu des films, souvent ils tombent, ils marchent comme des kangourous. Et donc il faut apprendre un peu à marcher. Donc il y a un programme où on regarde pourquoi on perd son équilibre, qu'est-ce qui se passe dans notre système neuro-vestibulaire d'équilibre. Mais aussi on peut simuler, par exemple, sur des vols paraboliques, vous pouvez flotter comme en 0G, mais vous pouvez simuler la gravité terrestre, lunaire ou martienne, et vous pouvez apprendre à marcher sur la Lune. Donc il y a des programmes pour cela à l'Agence spatiale européenne. Vous pouvez voler avec votre expérience. Un autre aspect intéressant, nous avons découvert sur la Lune des trous qui donnent accès à des tubes de lave. Ça fait 60 mètres d'entrée, nous en avons trouvé 200. Et donc, regardons comment, ici c'est un trou similaire, mais ça c'est sur l'île de La Réunion, et nous allons maintenant dans des sites sur Terre qui ont des tubes de lave pour les explorer comme nous allons le faire sur la Lune. Alors ça c'est un site au-dessus de Eiffel. Bon là il y avait des expériences de physiologie. Ici même une expérience où dans cette grotte, il y avait des dépôts de glace. Et nous avons essayé de voir, s'il y a de la glace, s'il y a de la matière organique, est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'activité prébiotique? Nous avons envoyé l'astronaute, stériliser, prendre des échantillons pour voir s'il y avait des microbes ou de la chimie complexe. Et voilà, il prend ces échantillons dans des conditions stériles. Voilà, il communique avec la Terre. Il déploie un engin qui pourra descendre la falaise de glace. Et voyez la portée de cette grotte de glace qui est en Autriche. Cette année, en juin, nous allons avoir une campagne avec un projet qui s'appelle ESALab. C'est une plateforme entre 20 universités, des étudiants qui font des recherches conjointes. Ils vont construire une base lunaire sous la glace. Ils vont faire ça à Zermatt, donc dans le massif Cervin, donc en Suisse. Ils travaillent sur divers sous-systèmes, l'énergie, la construction, soutien vie, etc. Et voilà, nous avons toute une série d'activités pour cela. Une partie des expériences va être d'analyser des échantillons en conditions donc stériles, comme nous le ferions s'il y avait des échantillons sur la Lune que nous voulions analyser. Nous avons aussi conduit il y a deux ans une campagne. Ça, c'était en Pologne, dans un vieux hangar militaire complètement isolé, où vous pouvez isoler des astronautes et vous pouvez créer le jour et la nuit à votre désir. Et bon, nous avons emmené notre analyseur là sur la Lune. Et voilà les astronautes qui restent 2 semaines sur la Lune. Vous voyez, ça c'était la photo prise avant les 2 semaines. Bien, au bout de 2 semaines, on a pris d'autres photos, mais c'était encore aussi très heureux. Pourquoi? Parce que nous sommes bien occupés d'eux. Nous les avons nourris avec donc des plantes qui avaient été produites sur place. Nous avons même développé une technique où, en utilisant du sol lunaire ou équivalent, nous sommes capables de faire pousser des plantes, même si c'est un sol très, très pauvre. Et donc, nous pourrons développer toute une technique de jardinage avec des robots jardin, des jardiniers robotiques, puis après, les astronautes pourront le faire fournir une partie de la diète des astronautes. Et je voudrais finir maintenant sur d'autres expériences de simulation que nous avons menées dans des analogues de la Lune et de Mars. Ici, c'est en Islande. Nous étions là-bas en septembre dernier, aussi dans une expédition dans un tube de lave. Nous avons pris des échantillons, nous avons exploré, mis des drones, nous leur avons appris à naviguer dans des grottes. Et nous allons essayer, en août, il y aura un groupe qui va construire des habitats modulaires pour vivre sous la surface. Donc j'ai des jeunes qui vont passer une semaine sous la surface. Un autre site est à Hawaï, où nous avons construit une base, un dôme, qui peut abriter entre 6 et 8 personnes, et qui auparavant a été utilisé par la NASA pour faire des expériences de longue durée. Ils ont passé un an dans ce dôme avec donc ces scaphandres pour sortir. Ils ont fait des centaines de sorties extravéhiculaires. Maintenant, nous faisons des expériences de 2 semaines. 2 semaines, c'est la durée du jour sur la Lune. Faire des expériences de courte durée pour voir à quoi pourraient ressembler les activités à la surface de la Lune. Donc, nous avons fait une première mission de reconnaissance. Là, j'étais là-bas pour une semaine. Nous avons passé une semaine sur la Lune. Donc, avec des drones, avec analyse d'échantillons. Une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble cet habitat lunaire. Alors, il y a un drone là qui se déplace à l'intérieur de ce dôme. Là, c'est un scaphandre assez lourd. Nous regardons maintenant une nouvelle génération de scaphandres beaucoup plus confortables. Et très mauvais temps dehors, c'est à Hawaï. Mais une structure assez volumineuse, telle que celle que l'on pourrait déployer, surtout gonflable, que l'on pourrait déployer, qui pèserait très peu. Alors la chance que nous avons, c'est que nous avons un sponsor, ce monsieur, Hank Rogers, et celui qui possède les droits du jeu Tetris. Vous avez déjà joué à Tetris? Alors, il a fait quelques dizaines de millions avec Tetris, et il investit ça pour l'énergie durable et pour aussi construire une base sur la Lune. Et donc, il nous a aidé à financer ce projet. Et donc, tous les ans, nous envoyons 3 équipages de 6 personnes qui vont passer 2 semaines sur la Lune. Et nous cherchons des volontaires pour la fin de l'année, donc nous cherchons 4 équipages. Et mais aussi des volontaires pour les aider à distance. Et là, donc, nous utilisons des drones pour explorer la région autour et les volcans tout autour ressemblent à ce que vous pourriez avoir sur la Lune, donc des tubes de lave que nous avons explorés. Et nous apprenons donc à faire des recherches comme si nous étions sur la Lune. Alors ça, c'était en mai dernier. Alors, il s'avère qu'au même moment, tout à coup, Hawaï s'est mis à... Bon, il y a une éruption volcanique énorme, donc on a profité pour prendre un hélicoptère pour survoler un petit peu cette planète qui est très active. Puis, nous avons recommencé en février. Là, nous avons créé un équipage de jeunes, donc des étudiants, de masters, qui ont passé 2 semaines sur la Lune. Alors moi, je suis resté à mi-chemin entre le haut sommet et la plage. J'ai construit un système de contrôle de mission très confortable où je leur donnais des instructions. Et mes astronautes, c'est eux qui avaient la vie dure et donc faisaient des sorties. Et donc je cherche des volontaires à la fois pour être astronautes et aussi pour m'aider dans le contrôle de mission. Donc si on a accès aux données, on peut voir ce qu'ils font, on a tout un système de communication. Donc comme si nous étions sur Terre. C'est un nom qui s'appelle Blue Planet, la compagnie de Hank Rogers et la Lune. Et là, donc, dans l'habitat lunaire, nous les entraînons à utiliser les costumes, le système de communication, les instruments Ici aussi, ils ne mangent que de la nourriture spatiale. C'est de la poudre de nourriture diverse. Et donc, il faut développer, apprendre à cuisiner. Donc, on met de l'eau dedans. Donc, là, ils partent avec tout l'équipement. Hop, ils arrivent premier jour sur la Lune. Et là, ils apprennent à utiliser les divers équipements, les costumes, briefing. Et même, il y a l'un d'entre eux, un Français, s'est découvert un talent de chef spatial. Il est capable de cuisiner un gâteau avec de la poudre d'ingrédients. Donc. Et voilà une vue de cette base lunaire que nous avons construite à Hawaï, depuis un drone qui est piloté par mes étudiants. Vous voyez les astronautes en sortie. Cette coulée de lave qui crée à très grande fluidité, qui corrode une sorte de rivière, et au-dessous, qui peut creuser un trou, un tube de lave. Alors, parfois, il y a des choses à réparer, comme dans ce cas-là, on avait perdu l'antenne de communication, donc hop, il doit faire une sortie extravéhiculaire pour la réparer. Ici, une autre campagne, où ils sont allés dans des trous de lave, et ils ont fait une découverte, ils ont trouvé des minéraux inexpliqués, comme de la poudre blanche. Ils appellent ça la space cocaïne, hein. Mais bon, en fait, c'est une poudre qui est produite par des microbes qui créent cette poudre blanche. Voilà, là, j'ai deux étudiants de géologie, de maîtrise de géologie d'Amsterdam, qui font les astronautes et qui regardent des échantillons qui les caractérisent, prennent des images, des spectres pour comprendre leur composition, et puis ils les ramènent. Alors, à cette occasion, nous avions aussi un astronaute qui était allé vraiment sur la station spatiale, un cosmonaute, c'est Oleg Artemiev, un commandant de la station spatiale qui était venu pour un événement à Hawaï, puisqu'en fait, il, Hank Rogers, pour faire plaisir à sa femme, a demandé à son ami astronaute de faire voler leurs anneaux de mariage, leur bague de mariage pendant 6 mois dans l'espace. Et donc, l'astronaute est venu lui rapporter, on a fait toute une grande célébration. Et après, nous sommes allés rendre visite aux astronautes qui étaient sur la Lune. Alors ça, c'est avec Hank Rogers et aussi avec cet homme le russe qui a inventé le jeu Tetris. Et donc, ils travaillent bien ensemble. Voilà, sinon, il y a d'autres projets sur lesquels nous travaillons au Centre européen des astronautes, avec le DLR, l'agence aérospatiale allemande. Nous construisons maintenant une facilité, nous allons simuler la Lune, donc avec des habitats lunaires, mais aussi une surface qui ressemblera à la surface de la Lune. On pourra essayer de simuler avec des ressorts, gravité partielle, la poussière lunaire, etc. Et en fait, c'est ce que nous essayons de faire, c'est de préparer ce village lunaire et martien sur Terre, donc avec des instruments robotiques, des landers, des rovers, mais aussi des aspects habités, avec des habitats dans des facilités où nous pouvons reproduire un peu ce à quoi ressemble la Lune, mais aussi dans des sites extrêmes sur Terre, comme à Hawaï, comme en Islande, comme dans l'Utah, qui ressemble à la Terre et à la Lune. C'est ainsi que nous nous préparons un peu aussi à affiner le design de ce que nous allons faire sur la Lune. Une étape suivante, nous allons mettre des modules, un module comme celui-là, qui est sur la station spatiale. Vous pouvez déployer une structure gonflable. Après, il faut la protéger avec du régolithe. Donc, ceci est fait par un robot avec une imprimante 3D qui peut construire une structure en nid assez légère. Et aussi, on peut utiliser de l'eau pour se protéger des radiations. Et donc, nous regardons ce travail. Nous faisons des activités avec les industriels, aussi avec la communauté internationale comme les Nations Unies, avec des architectes, etc. Nous essayons d'impliquer tout le monde dans ces activités qui vont nous permettre de préparer le pas suivant dans l'exploration de l'espace avec l'humanité. Et ceci va être utile pour la science, hein, par exemple pour faire des recherches sur la géologie de la Lune, l'histoire de la Terre, l'astronomie depuis la Lune, comment on peut adapter la vie à la surface de la Lune, mais aussi comprendre des questions qui correspondent à la recherche de nos origines et préparer le futur de l'humanité. Mais il y a aussi des ingénieurs qui sont impliqués. Il y a des industries, il y a des artistes, il y a des designers. Et donc, si vous voulez participer à cette aventure, okay, vous êtes bienvenus. D'abord, venez nous rendre visite à l'ESTEC quand vous êtes aux Pays-Bas. On peut vous faire une visite de nos facilités, mais aussi, éventuellement, suivez nos activités. Et je vois que s'il y a certains sujets ou des activités, des campagnes ou des études auxquelles vous voulez participer, nous voulons aussi avoir une partie de science ou ingénierie citoyenne où on pourrait aussi utiliser vos talents pour cela. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, je vais seulement vous poser une question. En fait, parce qu'en fait, moi, j'ai un plan. C'est que d'ici 20 ans, j'ai l'intention de prendre ma retraite sur la Lune. Hein, donc, j'irai vers le pôle. Hein, c'est la phase visible. 2 semaines, c'est la phase visible. 2 semaines, on ne voit pas la Terre. Et donc, d'installer une petite villa. Et puis, donc, j'espère que ma famille, j'ai mon frère là, qui est venu avec moi. C'est un designer. Il fait des enseignes sur Paris. Ben, il va peut-être me rendre visite, toute ma famille, mes amis, et je voudrais vous inviter à venir me rendre visite. Dans 20 ans, prenons rendez-vous. Donc, qui est-ce qui va venir me rendre visite sur la Lune il y a 20 ans? Qui est-ce qui voudrait me rendre visite dans 20 ans? Merci, je prends voir. Parfait. Et je vous donne un petit truc. Il suffit de demander un jour de congé à votre employeur. Vous dites, oh, je voudrais passer un jour sur la Lune. Mais non, un jour sur la Lune, ça dure un mois.
Eh oui, voilà. Bravo.
Merci.
Merci Bernard. Moi, je pense que cette invitation n'est certainement pas tombée sur l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Et tu vas sûrement en entendre parler. Hein. Voilà, tu t'es engagé. Il y a des témoins. Et il y a peut-être des questions, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Bon. Alors, je monte.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Pour que les millions, ce n'est pas un reproche, hein, affluent comme ça, en dehors de l'aspect scientifique et peut-être aussi romantique de faire des choses sur la Lune pour un jour aller plus loin, est-ce que les ressources minières, notamment des matériaux rares, ce n'est pas quelque chose qui va être très vite regardé sur le plan technique et commercial, quoi. Oui. Est-ce qu'on a déjà des idées aussi de ce qu'il peut y avoir? Est-ce qu'il y a déjà des indices?
Oui, alors on sait qu'il y a des ressources sur la Lune. Bon, d'une part, il y a du soleil en permanence, donc on peut faire de l'énergie. Il y a des ressources minières, il y a des minéraux qui peuvent être utilisés sur place pour construire, qui peuvent être utilisés pour imprimer des objets de construction, même des objets, des artefacts qui pourraient être envoyés vers la Terre avec quelques bénéfices. Mais il est vrai, il y a aussi des métaux, des terres rares, des métaux précieux, dans cet endroit, bien concentré. Et donc, c'est vrai, il y a certaines entreprises qui sont tentées de voir que dans le futur, la Lune pourra jouer le rôle d'un continent qui va servir à exploiter certaines de ces structures. Après, il faut le faire de façon assez responsable. Hein, il y a aussi de la glace d'eau. La glace d'eau, un verre d'eau, en orbite terrestre, ça coûte 40 000 dollars pour envoyer un litre d'eau. Alors que sur la Lune, il y a 1 milliard de tonnes de glace d'eau qui serait disponible. Alors, supposons qu'on en exploite seulement une partie par mille, il y aurait suffisamment de glace pour les besoins d'astronautes, mais aussi pour du carburant, hydrogène et oxygène, qui pourrait être utilisé sur des fusées pour prolonger la durée de vie des satellites d'application. Là, il y a un marché de 1 000 milliards d'euros. Si on est capable de construire une petite fusée à eau qui est lancée depuis la Lune, ça coûte 40 fois moins d'énergie pour lancer des choses depuis la Lune que de la Terre. Là, il y a aussi une perspective vraiment de retour économique.
Alors, on voit tout de suite, hein, tu as prononcé le mot responsable.
Ah.
Ah oui, parce que là, on voit que ça va susciter des convoitises de différents pays, différentes puissances. Tout ont signé ou presque les chartes. Voilà. Oui. Mais bon, on peut quand même il faut être vigilant. On peut
Alors, il faut être très vigilant. Alors, pour l'instant, le droit de l'espace et un droit qui reconnaît la responsabilité des États de mettre en vigueur ce qu'ils ont signé comme traité. Et pour l'instant, ils ont tous continué, parce qu'il ne faut pas ouvrir le traité de droit de l'espace, c'est la boîte de Pandore, si on l'ouvre et qu'on dit on recommence dans notre traité et on laisse des armes de destruction massive et la militarisation, c'est très dangereux. Donc c'est tellement dangereux que personne ne veut remettre en question pour l'instant. Mais il y a des industriels économiques qui disent « Oh, on préférerait avoir des bons droits de propriété. »
Voilà.
Mais le problème des droits de propriété, c'est qu'il y a après des conflits, justement, pour avoir cette propriété. Donc, il est très important de garder le fait qu'on ne peut pas être propriétaire de la Lune. Ça n'empêche pas d'exploiter les ressources. Par exemple, on n'est pas propriétaire de l'océan, mais on peut aller pêcher dans l'océan. Donc, on peut... Et après, il faut aussi essayer de garder un contrôle par les gouvernements, ceux qui sont responsables, bon, les nôtres, oui, disons nos gouvernements, ils doivent investir une partie, par exemple 20-30%, pour rester partenaires dans ces opérations. Si les gouvernements disent « Ah non, on laisse libre à toutes les industries d'aller explorer la Lune sans investir nous-mêmes », nous n'avons pas de crédibilité. Et donc, nous n'avons pas la possibilité de renforcer l'état de loi, de mettre un shérif qui va dire « Ah non, non, il faut garder le calme, exploiter les ressources. » Et après, il y a même un état où il faut penser à protéger l'environnement lunaire pour les prochaines générations. Parce qu'il ne faut pas simplement exploiter tout, il faut garder des régions pour le bien des générations futures.
On peut faire confiance à la sagesse des nations, n'est-ce pas?
Il faut aussi des bons encouragements pour cela.
Oui, j'ai deux questions alors à poser. L'une, est-il vrai que la reprographie 3D va permettre de faire des économies de transport d'éléments tout faits, puisqu'on peut sur place fabriquer des éléments comme ça? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, quand on fait des travaux dans un environnement de ce genre, puisqu'il y a beaucoup de régolithes, je suppose que ça doit générer énormément de poussière, de particules. Et comment on peut arriver à régler ce problème?
En effet, reprographie 3D, donc, il y a des techniques maintenant qu'on utilise avec des métaux, mais aussi nous avons développé une technique où nous pouvons utiliser ce sol lunaire qui, en fait, c'est de la poudre très fine, puisque c'est en fait... Ce sont des roches volcaniques qui ont été bombardées pendant 4 milliards d'années. C'est des poudres de 20-80 microns. Donc, on a développé une technique où nous pouvons les faire fondre avec de la lumière solaire concentrée. Nous pouvons les faire fondre en les mettant en micro-ondes, puisque ces poudres contiennent aussi des éléments de fer. C'est le fer dans votre micro-ondes, hein, ça fait des étincelles. Aussi, on peut donc faire fondre ça avec des micro-ondes. Ou avec un faisceau laser, vous pourriez imprimer des choses avec un faisceau laser pour faire des petits objets, mais même, nous avons développé des techniques pour faire des gros objets. Donc, la poudre de lunaire, ça représente une ressource vraiment très précieuse. Mais aussi, c'est un danger. Cette poudre, avec cette taille de 20-80 microns, il faut, si vous l'ingérez dans vos poumons, c'est une poudre, elle est très abrasive, il y a plein de coins, etc. C'est cancérigène. Donc il faut aussi avoir toute une méthode de protection pour éviter que cette poudre entre dans les poumons, entre dans les mécanismes, etc. Donc il va falloir trouver des moyens de nettoyer cette poudre aux endroits où il y a beaucoup d'opérations. Et pour les astronomes aussi, ils n'aiment pas cette poudre qui est remuée dans tous les sens. Il va falloir réserver des endroits pour les astronomes, où il y a très peu d'opérations par rapport à celles où nous allons exploiter les ressources lunaires.
Question, s'il y en a. Ça étonne, hein, de ce qui va se passer. Alors, tu as dit 30 ans tu as dit 2030.
Alors, en 2030, nous parlons de 10-20 personnes qui iront sur... qui seront sur la Lune en permanence. 2024, le vice-président Pence a déclaré qu'il y aura la première femme sur la Lune. Parce qu'en effet, vous savez combien il y a eu d'astronautes autour de la Lune?
12, 13.
Alors, 12 sur la surface, 24 autour de la Lune. Combien de femmes? Zéro. Donc, en 2019, on dit qu'il va falloir quand même changer ça. Donc, 2024, la première femme sur la Lune. 2030, il y aura 10-20 personnes. 2040, nous pourrions avoir 100 personnes. C'est pour ça que je dis, voilà, dans 20 ans, je peux être parmi les 100.
Ah oui,
et puis après, on aura des milliers de personnes. Il y a une question là-bas.
Ouais.
Confirmer l'origine de la matérialisation de la Lune.
Ah oui, alors donc, aussi, d'où vient la Lune ? Les théories, grâce aux échantillons que nous avons ramenés avec les missions Apollo, les missions soviétiques Luna, nous indiquaient qu'il y a une très grande parenté entre ces échantillons lunaires et la Terre. Et ça a donné naissance à la théorie de formation de la Lune par un impact de la Terre, par un embryon de planète qui aurait la taille de Mars à peu près, qui a frappé la Terre en oblique quand la Terre avait à peu près 1% de son âge. Et ça crée un anneau de matière autour de la Terre qui a formé la Lune. Et d'ailleurs, la Lune était formée très proche de la Terre, ce qui fait qu'elle était tellement proche que les effets de marée sur la Terre ont créé, ont maintenu la Terre comme monde volcanique, comme océan de magma, beaucoup plus longtemps. Peut-être que ça a aussi aidé au déclenchement tectonique des plaques sur la Terre. Le fait d'avoir la Lune a complètement changé l'évolution de la Terre, a même changé les conditions d'apparition de la vie sur Terre. En particulier, même maintenant, la Lune est assez proche de la Terre pour stabiliser la rotation de la Terre et pour éviter qu'il y ait des chaos climatiques comme nous le voyons sur Mars. En fait, donc, la Lune a un rôle énorme pour le développement de vie complexe sur Terre. Et si on cherche, par exemple, d'autres Terres dans la galaxie où il y aurait des civilisations, peut-être qu'il faudra chercher des Terres qui ont des Lunes aussi grosses que la nôtre.
Mais si la composition est à peu près la même, pourquoi il y a plus de Terres rares sur la Lune que sur Terre ?
Alors, la composition, par exemple, de l'isotope de l'oxygène est la même. Donc, on semble indiquer qu'il y a un réservoir commun. En fait, après, les théoriciens ont refait le calcul et ont dit, la Lune devrait essentiellement avoir la composition du père, celui qui est arrivé là pour une nuit de contact avec la Terre. On dit que 80% ça devrait venir du père, 20% de la Terre. Et maintenant, ça semble indiquer que, en fait, le père de la Lune avait aussi à peu près la même composition que la Terre. Mais il y a d'autres scénarios. Peut-être que ce n'était pas un père et une mère. Peut-être que c'était deux demi-terres. Donc, on pense qu'il y a un impact géant, mais il y a encore plus à étudier. Pour cela, il va falloir avoir plus d'échantillons et même aller à la surface de la Lune pour mettre des sismomètres pour bien comprendre la composition de l'intérieur de la Lune. Ça, on ne connaît pas trop bien. Les terres rares, il y a des endroits, il y a des processus qui peuvent concentrer ces terres rares, en particulier dans certaines de ces régions volcaniques, dans Procellarum. Il y a des effets radioactifs et de concentration de terres rares dans ces endroits. Donc, on sait maintenant où elles sont situées et c'est de là qu'on pourrait les ramener.
Bon, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à remercier Bernard. Voilà, surtout merci. Que c'est la dernière conférence de la saison 2018-2019. Oui, voilà.
Merci. Alors, je voudrais remercier Daniel et puis je voudrais prendre un petit souvenir de notre conférence ici. Voilà. Merci.
Merci. Et voilà, donc rendez-vous au mois de septembre. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Comment ?
S'inscrire dès demain matin.
Ah, pour l'inscription, qu'est-ce qu'on fait pour l'inscription ? Je ne sais plus. Je ne sais même pas quelle sera la conférence de septembre. Écoutez, vous faites comme d'habitude. Vous allez sur le site, vous verrez le nom de l'orateur et vous pouvez vous inscrire. On vous dira quand. Ça doit être marqué sur le site.
Et comme je l'ai indiqué, bon, ceux qui n'ont pas prévu de me rendre visite dans 20 ans sur la Lune, si vous passez par les Pays-Bas, en petit groupe, on peut vous organiser une visite de l'ESTEC. Vous prenez prendre mon email, mon courrier électronique, bernard.foing@esa.int. Aussi, si vous avez certains d'entre vous sont des étudiants qui veulent faire des projets de recherche ou des projets d'études, même en scolaire, envoyez-moi un courrier. Nous avons toute une série de collègues qui peuvent aussi vous impliquer dans nos activités de village lunaire.
Ou des jeunes.
Ah, bien sûr, je parle des jeunes, ceux qui vont marcher sur la Lune.
Voilà, c'est ça. Vous organisez des stages pour des jeunes étudiants,
Il y a des stages d'étudiants d'université Essentiellement. Hein, c'est d'accord. Donc au niveau bachelor, au master. Oui. Si vous voulez, les astronautes, il faut qu'ils fassent leur master d'abord. Donc je vous encourage à bien travailler et faire votre master. C'est à partir de master que vous pouvez postuler pour être astronaute. Et il va y avoir des appels à astronautes aussi dans les prochaines années.
Voilà, bonnes vacances à tous.
Mais si vous n'avez pas votre master, vous pouvez devenir millionnaire. Et là, vous pouvez aussi acheter votre billet pour aller sur la Lune.